VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. De passage à New York, le président des Comores, Azali Assoumani, a évoqué la question des migrations. Il a notamment parlé du cas des Comoriens se rendant à l'île française de Mayotte dans l'océan Indien. On l'écoute.
Ce n'est pas de l'immigration. C'est des gens qui se déplacent à l'intérieur de leur pays. Malheureusement, cette île de Mayotte qui est restée sous l'administration française fait que maintenant, avec ce qu'on appelle malheureusement le visa baladur, qui nous a imposé un visa depuis 1994, fait que pour aller à Mayotte, il faut un visa. Donc le visa, on l'a pas, même si on le demande. Bon, il y a d'autres qui préfèrent prendre ce qu'on appelle chez nous les kossa-kossa, c'est-à-dire les pirogues, hein, pour aller à Mayotte, au péril de leur vie. Hein. Effectivement aussi, la PAF mahoraise ne facilite pas la tâche. Et là, c'est ce problème que j'ai voulu évoquer, donc le problème de l'immigration et le problème de Mayotte. Et puis pour terminer, c'est que les migrants en Europe, effectivement, c'est des gens qui se déplacent parce qu'ils ont des problèmes dans leur pays, l'insécurité, la guerre et tout ça, ils se déplacent, pas par plaisir qu'ils se déplacent. Donc on a intérêt à résoudre le problème un peu en amont, hein, pour éviter à ce que ces gens-là se déplacent.
Le président des Comores, Azali Assoumani. En RDC, poursuite du bras de fer entre le pouvoir et le rassemblement des forces politiques acquises au changement, la plateforme de l'opposition dirigée par Étienne Tshisekedi, qui ne participe pas au dialogue national sur les prochaines échéances électorales. Le rassemblement était en conclave mardi à Kinshasa. À l'issue de ces travaux, de nombreuses recommandations ont été faites, notamment sur l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles dans le respect de la Constitution. Le point avec Walter Nkouy de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au-delà de la crise financière qui a plombé l'économie de la RDC, c'est la crise politique qui est sur toutes les lèvres des différents acteurs. Crise due à la non-convocation du corps électoral le 19 septembre dernier, ce qui reporte automatiquement la tenue de l'élection présidentielle au-delà du calendrier constitutionnel le 19 novembre. Après deux semaines d'intenses travaux, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a présenté des pistes de solutions pendant un conclave tenu dans les décombres du siège d'élu d'EPES parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Il s'agit entre autres d'établir au cours d'un dialogue inclusif selon ses acteurs un calendrier électoral privilégiant la tenue de l'élection présidentielle. Le rassemblement recommande aussi la réforme de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Christophe Lutundula est membre du G7 et cadre du rassemblement.
Si on n'a pas organisé les élections avant le 19, il faut accepter néanmoins que le mandat du président Kabila est terminé le 19 décembre. L'article 5 de la Constitution est clair, le pouvoir émane du peuple, donc il n'y aura pas de légitimité. Dans le cadre du dialogue politique inclusif, nous devons discuter d'un régime approprié pour la circonstance, mais qui ne doit pas s'écarter de la Constitution. Et croyez-moi, il y a moyen de faire quelque chose qui soit conforme à la Constitution. Et pour le G7, nous avons des idées précises que nous allons proposer au Rassemblement pour le besoin du dialogue.
Kinshasa, Walter Nkouy de Top Congo pour VOA Afrique.
Afrique du Sud, la conférence mondiale de protection de la faune qui s'est achevée mardi soir à Johannesburg a renforcé la protection d'espèces menacées comme requins et pangolins et écarté les appels à la légalisation de certains commerces pour enrayer le braconnage. Selon les ONG de défense des animaux, les décisions prises lors de cette réunion triennale par les délégués des 182 pays membres plus l'Union européenne de la CITES, la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction, ont vraiment changé la donne dans ce domaine et ces ONG s'en félicitent.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, les journalistes des médias publics et du service d'information du gouvernement ont entamé une deuxième grève qui dure 72 heures afin de revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. Les précisions de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Pour cette deuxième grève du genre, les travailleurs des médias publics et du service d'information du gouvernement ont à nouveau déserté les bureaux et salles de rédaction pour appliquer par centaines au siège du Sud-Royal, le quotidien d'État. Ils entendent ainsi intensifier l'interpellation du gouvernement burkinabé sur le respect des textes votés en 2015 sous la transition politique et qui tardent à être mis en œuvre, le cas échéant, à prendre des mesures transitoires pour améliorer les conditions de vie des hommes et femmes des médias publics. Sidiki Dramé, secrétaire général du syndicat.
Dans tous les cas, nous nous restons ouverts à tout dialogue qui peut être fructueux. Fructueux, c'est quoi ? C'est des propositions concrètes par rapport à ce que demandent les travailleurs des médias. Il faut que ce soit quand même des propositions qui puissent permettre aux journalistes et techniciens, les travailleurs des médias, de pouvoir se prendre en charge, d'être des hommes assez autonomes sur le plan financier pour éviter les tentations qui peuvent salir le travail d'un homme de médias.
Les travailleurs auraient, selon le président, suivi à presque 100% ce débrayage de 72 heures qui prend fin à minuit ce soir. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Afrique du Nord, au Maroc, la campagne électorale pour les législatives prévue vendredi se déroule dans un climat positif, a estimé le ministre marocain de l'Intérieur, Mohamed Assad, qui a réaffirmé sa volonté d'organiser un scrutin intègre et transparent. Depuis le 24 septembre, 9100 meetings, rencontres et réunions publiques se sont tenues avec la présence d'environ 540 000 personnes, soit deux fois plus que lors de la campagne des législatives de 2011, a précisé M. Assad, cité par un communiqué de son ministère. Présidentielle américaine 2016 maintenant, le président Barack Obama a annulé aujourd'hui un déplacement en Caroline du Sud où il devait participer à un meeting de soutien à la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton dans le cadre de la campagne présidentielle. Motif, les Sud-Caroliniens sont en plein préparatif à l'approche de l'ouragan Matthew qui, après avoir fait d'importants dégâts dans la Caraïbe, notamment en Haïti, devrait affecter le sud-est des États-Unis en fin de semaine. Pour le moment, c'est le débat d'hier soir entre les candidats démocrates et républicains à la vice-présidence des États-Unis, à savoir le sénateur Tim Kaine de Virginie et le gouverneur Mike Pence de l'Indiana, qui fait la une de l'actualité politique. C'était le seul débat prévu entre les deux hommes pendant la campagne électorale 2016. Jean-Roger Bion.
Le débat a porté sur des questions de politique intérieure et internationale. Ils se sont vivement opposés sur l'économie, la sécurité, l'immigration et la politique étrangère. M. Pence a expliqué que le retrait des forces américaines en Irak a créé un vide dangereux qui a favorisé l'émergence de groupes États islamiques. Monsieur Pence a dénoncé ce qu'il a appelé la faiblesse de Mme Clinton quand elle était secrétaire d'État et qui a plongé, selon lui, le Moyen-Orient dans la tourmente. Le gouverneur de l'Indiana a par ailleurs déclaré qu'un leadership américain fort que va incarner Donald Trump, selon lui, empêchera des situations telles que la guerre civile en Syrie. M. Kaine a répondu que l'expérience de Hillary Clinton en tant que secrétaire d'État en fait la candidate la plus qualifiée pour éradiquer l'organisation djihadiste. M. Kaine a répliqué qu'à l'arrivée de Hillary Clinton au département d'État, Osama Bin Laden, cerveau de l'attentat du 11 septembre 2001 aux États-Unis, était encore en vie et l'Iran était en train de fabriquer une bombe atomique. Il a ajouté que Mme Clinton était à la Maison-Blanche aux côtés du président Barack Obama quand l'opération contre l'ex-leader d'Al-Qaïda a été lancée pour le liquider. D'emblée, M. Kaine a chanté les louanges de sa candidate à la présidence, Hillary Clinton, sa longue carrière au service du public, et M. Pence a fait idem contre Mme Clinton et vanté les qualités de M. Trump. La controverse sur la feuille d'impôt de M. Trump, le serveur privé de Mme Clinton, l'immigration et le nucléaire nord-coréen ont été également évoqués.
Pour une réaction américaine au débat, Jean-Roger a contacté le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie à Charlotteville.
C'était un débat très intéressant, beaucoup d'arguments des deux côtés.
Alors, des deux candidats, qui vous a paru le plus pertinent?
Je pense que Pence était plus pertinent, vraiment. Il a l'air d'être plus décontracté, il parle avec plus de dignité, il a l'air d'être plus présidentiel, je crois, que Kaine, qui a tout le temps interrompu Pence. Et qui était un peu nerveux, à mon avis. Il était une espèce de chien d'attaque. Et là, il a assez bien réussi en posant des problèmes. Il a mis un peu Trump sur le côté défensif. Mais quand même, Trump a assez bien répondu.
Alors, à qui bénéficie donc ce débat?
Alors, probablement personne. Les débats vice-présidentiels ne sont pas très, très importants. Et ni l'un ni l'autre a commis une erreur grave. Ça, c'est la chose importante. Ni l'un ni l'autre a fait une gaffe, si vous voulez.
Le professeur Jim Caesar de l'Université de Virginie, il était joint à Charlotteville par Jean-Roger Bion. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.